Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio Okapi. À la une aujourd'hui, Doha, capitale du Qatar, a été le théâtre d'un accord majeur signé le 19 juillet entre le gouvernement congolais et l'alliance fleuve Congo M23. Ces documents suscitent encore de nombreuses réactions et pourraient marquer un tournant décisif dans la quête de paix à l'est de la RDC. Quels sont les points clés de cet accord? On vous en parle dans un instant. Restez à l'écoute. Massissi, Nord-Kivu, les enseignants menacent de boycotter les examens d'État face aux arriérés de salaire et au non-respect du calendrier de paiement par la Caritas. L'intersyndicale hausse le ton à quelques jours des épreuves prévues le 27 juillet. Nelson Mandela Day, entretien dans ce journal avec notre invité Mwene Batende Dufina Tabu, président de l'ASVOCO, autour du thème « Le pouvoir de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités et entre nos mains à toutes et à tous ». Nous ouvrons ce journal avec un sujet qui fait la une tant au niveau national qu'international. Le 19 juillet à Doha, un accord de principe a été signé entre le gouvernement congolais et l'alliance fleuve Congo M23. Ces documents marquent une avancée importante dans les efforts de paix pour l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri. Attention, il ne s'agit pas encore d'un accord final, mais d'une base solide pour un processus de paix inclusif qui devra impliquer les communautés locales, les acteurs politiques et la société civile. Alors, que faut-il retenir de cette déclaration de principe? Jean Gando nous éclaire là-dessus.
Il faut dire que c'est un engagement fort en faveur d'un règlement pacifique du conflit dans l'est de la RDC. Dans les préambules de cette déclaration des principes, les deux parties, à savoir le gouvernement congolais et les M23 AFC, réaffirment leur attachement à la paix, à la constitution de la RDC et aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Parmi les engagements majeurs figure l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Ce cessez-le-feu interdit toute attaque armée, toute propagande haineuse et toute tentative de modification des lignes de front. Un mécanisme mais conjoint des vérifications sera mis en place pour en assurer le respect. Et sur le plan humanitaire, la déclaration prévoit notamment la libération encadrée des prisonniers d'intérêt en collaboration avec le CICR, le retour volontaire et sécurisé des déplacés et réfugiés avec l'appui du HCR et des pays d'accueil. Autre pilier fondamental, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Un processus qui fera l'objet d'un accord de paix global actuellement en préparation avec un calendrier de mise en œuvre en cours de finalisation. Les deux parties s'engagent également à protéger les civils, à faciliter l'application du cessez-le-feu et à rejeter tout discours de haine, xénophobe ou stigmatisant. La MONUSCO et d'autres mécanismes régionaux pourraient appuyer ce processus si besoin. Et le calendrier est serré. D'ici le 29 juillet, le début de la mise en œuvre des engagements, le 8 août, l'ouverture officielle des négociations entre les deux camps et le 17 août, la signature attendue d'un accord de paix.
En Ituri, la société civile du Congo, antenne du territoire de Mambasa, tend la main aux nouvelles autorités militaires fraîchement nommées à la tête de la 31e brigade des FRDC basée au cœur du territoire. Marie-Noël Anotane, responsable de cette structure citoyenne, salue les efforts déjà engagés par les forces armées pour ramener le calme. Et les résultats sont là, dont les chefferies des Bombo et Bandaka. Une accalmie se fait sentir depuis plusieurs mois, mais elle ne s'arrête pas là. Elle appelle l'armée à intensifier ses opérations, notamment dans les zones encore instables à Babila Bakwanza et Babila Babombi, où les rebelles ADF continuent de s'aimer la terreur. Marie-Noël Anotane, jointe au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
L'ennemi de la paix observe, quand il y a la calmie, lui aussi essaie de changer de stratégie, chercher à bouleverser la quiétude de la population. C'est qu'on pouvait demander aux autorités de garder cette accalmie en ayant la vigilance. Là où il y a la calmie, de capitaliser cette accalmie avec la vigilance, la collaboration civilo-militaire. Et là où il y a encore des problèmes comme dans Babila Babombi, Babila Bakwanza, de travailler d'arrache-pied et que la coalition UPDF-FARDC entre dans le foncé de la forêt pour nettoyer la forêt. Nous, la société civile, nous devons aussi sensibiliser la communauté pour ne pas déranger la quiétude de nous-mêmes. Parce que quand on attrape, oui, il y a des hommes armés, mais il y a aussi la population civile qui est des fois complice de ces hommes armés. Donc, nous sommes là pour collaborer comme structure citoyenne, parce que sans collaboration entre les autorités et la population, il n'y a pas une bonne réussite.
Éducation, tension dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. L'intersyndicale des enseignants hausse le ton et menace de boycotter la supervision des examens d'État prévus le 27 juillet prochain en cause des arriérés de salaire qui tardent à être payés. Les enseignants pointent du doigt la Caritas, leur agent payeur, qu'ils accusent de ne pas respecter le calendrier de paiement pourtant convenu. Un calendrier qui prévoyait des versements chaque vendredi. Fatigués de promesses non tenues, malgré un consensus clair entre les deux parties, les enseignants disent stop. On écoute maintenant Exaucé Bandou Bauma, président de la Force syndicale nationale FOSINAT et porte-parole de l'intersyndicale à Massissi. Il est joint par Denise Loukesso.
Nous avions pris un programme avec la Caritas, celui de nous payer chaque vendredi. Et cela, c'était dans le sens de pouvoir calmer nos enseignants, parce qu'ils viennent de purger maintenant 6 mois impayés pour certains. Même si la Caritas vient de nous distraire avec combien d'écoles qui viennent de payer les mois de mars, janvier et les mois d'avril. Mais il y a certaines écoles jusque-là qui ne sont pas encore payées. Maintenant, nous nous demandons pourquoi cette paie-là est partielle. Nous avions pris ce programme-là pour qu'ils nous payent chaque vendredi. Malheureusement, la Caritas ne cesse toujours de nous négliger. Et voilà pourquoi nous, les enseignants du territoire de Massis, nous avions pris maintenant cette décision de boycotter les examens d'État si la Caritas n'allait pas nous payer avant cette date. Et si on arrivait le 28 sans que la Caritas ne termine tous nos arriérés, et donc retenez que tous les examens dans notre territoire ne seront pas surveillés. Nous ne serons pas là si la Caritas n'allait pas nous payer. Nous ne savons pas il s'agit de quoi au fait. Si le gouvernement fait détourner notre argent à travers cette Caritas, mais qu'ils nous disent la vérité.
Retour en Ituri à Bounia. 17 jeunes, dont 7 femmes, s'engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Leur arme, la sensibilisation à la masculinité positive. C'est dans le cadre d'un programme du gouvernement congolais appuyé techniquement par la MONUSCO que ces jeunes ont été formés pendant 3 jours. Objectif, encourager les hommes à adopter des comportements respectueux et équitables envers les femmes et les filles. La formation organisée par la section du genre de la MONUSCO s'est clôturée jeudi dernier. Une initiative saluée par les participants qui comptent bien passer à l'action sur le terrain. Reportage signé Jean-Claude Lokidile.
La masculinité positive est une approche qui vise à définir la masculinité au-delà des stéréotypes traditionnels et souvent négatifs en encourageant les hommes à avoir de la considération envers les femmes et les jeunes filles, mais aussi en rejetant des aspects nuisibles tels que l'agressivité, la domination et la violence. Archimède Denzama, l'un des participants, explique ce qu'il a compris de la masculinité positive.
Par exemple, aider les femmes dans tout ce que les femmes font, nos coutumes, nos cultures, donnent toujours beaucoup de tâches aux femmes et puis catégorise peu de tâches seulement aux hommes et pourtant ce sont des choses que nous-mêmes nous pouvons changer.
Cette démarche met l'accent sur l'importance du respect des droits de tous, de la collaboration entre les genres et la lutte contre les inégalités et les violences basées sur leur genre. Pour Ange Kasongia, les femmes ne doivent pas profiter de cette brèche pour tenter d'écraser l'autorité de leurs époux.
Il y a même d'autres hommes qui ont même témoigné que lui, quand il a cherché à vivre la masculinité positive, c'était maintenant l'occasion pour la femme de lui laisser tout. C'est vraiment aussi une séance de sensibilisation pour que la femme comprenne sa place.
Les apprenants ont aussi été édifiés sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi sur les autres instruments juridiques sur le genre. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
À Boma, dans le Congo central, les comités observatoires de droits de l'homme, les CODH, viennent de boucler une formation de 3 jours. Objectif, renforcer leurs capacités en technique de plaidoyer et en reportage des violations de droits humains. Cette session qui s'est clôturée ce samedi a été organisée par l'ASBL Dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable des 5 en sigle. Elle s'inscrit dans le cadre de son projet protection de la sûreté individuelle et responsabilisation des acteurs judiciaires dont notamment la ville de Boma. Une formation jugée essentielle, surtout pour le nouveau membre récemment intégré au comité. Roger Mavungo, secrétaire exécutif de D5, revient sur l'importance de cette initiative. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Nana Pluriche Mambou.
Vous savez, les droits de l'homme, c'est vraiment une réalité importante dont le respect doit être de mise. Et nous avons, dans le cadre du projet que nous implémentons, nous avons pratiquement créé des structures de changement qu'on appelle CODEH. Voilà pourquoi ces membres de CODEH doivent être de temps en temps être capacités dans le cadre de leur travail. Quel est ce travail? C'est-à-dire documenter les cas de violation des droits humains. Mais aujourd'hui, nous avons ajouté une bretelle consistant à les capacités au niveau technique de plaidoyer. Nous estimons que ceux qui sont en train de réunir comme cas de violation des droits humains, il y a aussi une démarche importante d'aller vers des autorités qui sont destiné à améliorer le respect des droits humains. Voilà pourquoi nous avons vraiment initié cette formation pour que le CODEH soit appelé à bien documenter les cas des droits humains et aussi comment aller vers les autorités pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité.
Goma, Nord Kivu, l'ONG appuie aux initiatives de conservation de l'environnement et de développement durable monte au créneau. Elle appelle au retrait immédiat des emballages plastiques encore présents sur le marché. Dans une correspondance le 8 juillet dernier, l'organisation réagit aux mesures interdisant l'importation de ces emballages. Selon son directeur national, le moratoire accordé aux commerçants a expiré depuis le 30 juin. Pourtant, les plastiques continuent de circuler. L'ONG plaide pour une transition vers des emballages biodégradables afin de réduire l'impact environnemental de déchets plastiques dans la ville. On écoute Faustin Nyeboné au micro de Radio Capitole. C'est le directeur national de l'appui aux initiatives de conservation de l'environnement et développement durable.
Après ces délais moratoires, nous avions constaté malheureusement que les emballages plastiques continuent à pilluler dans la ville de Goma. Alors c'est pourquoi nous avions donné des mesures d'accompagnement pour que effectivement ces communiqués officiels soient vraiment appliqués, et cela pour l'intérêt de la santé des communautés ainsi que même pour la protection de l'environnement. Nous avions suggéré à l'autorité urbaine de vulgariser les communiqués officiels parce que quand on a fait les enquêtes, nous avons trouvé que une couche de la population ne connaît même pas s'il y a ces communiqués-là. Aussi, nous avions proposé de renforcer les mesures au niveau des frontières pour qu'il n'y ait plus d'autres stocks d'emballages non biodégradables pouvant encore entrer dans la ville de Goma. Aussi, nous avions proposé qu'il y ait des stratégies de la promotion des emballages biodégradables. Par exemple, exonérer tous les matériels entrant dans la fabrication des emballages biodégradables.
Restons dans la région, direction le nord de la province, à Beni plus précisément. Le bourgmestre de la commune de Rouenzori tire la sonnette d'alarme. Il appelle les conducteurs de motos triporteurs à prendre conscience de leur rôle dans l'assainissement de la ville. Ces transporteurs d'ordures sont accusés par les habitants de déverser les déchets dans des endroits inappropriés, notamment le long des routes dans les quartiers Bouikène, Ngandi et Ngité. Une situation qui inquiète les riverains. L'autorité communale rappelle que les immondices doivent être déposés exclusivement au dépotoir public situé dans les quartiers Zuma. Le commissaire Rémi Masashi s'explique au micro de Marc Marofimbo.
Les instructions ont été bien comprises. Pour ce qui est des immondices, il y a un seul dépotoir public qui se trouve dans la commune de Rouenzori, qui est un dépotoir de la ville. Alors, toutes les immondices qui sont récoltées chaque samedi sont jetées au dépotoir public qui se trouve au quartier Nzuma. Nous pouvons déplorer dans la pratique de jeunes gens qui transportent les immondices à bord de triporteurs, qui peut-être pour diminuer la distance entre le quartier Nzuma et la ville, passer dans de telles pratiques. Mais nous allons quand même faire le suivi pour voir si réellement il y a de tels gestes qui sont utilisés par les transporteurs des immondices. Nous allons sensibiliser les petits transporteurs de triporteurs pour leur dire nous avons des informations comme quoi vous jetez les immondices en cours de route et vous ne les acheminez pas au dépotoir public, pour qu'ils sachent que non, leur mauvaise pratique là est déjà connue et pour qu'ils s'amendent.
Actualité internationale.
Ce dimanche, lors de la prière de l'Angélus, le pape Léon XIV a lancé un appel pressant pour mettre fin à la barbarie de la guerre à Gaza et à l'usage aveugle de la force. Cette déclaration intervient quelques jours après une frappe israélienne meurtrière contre la seule église catholique de la bande de Gaza qui a coûté la vie à 3 personnes. Je demande une fois de plus la fin immédiate de la barbarie de cette guerre et une résolution pacifique du conflit, a déclaré le souverain pontife, exprimant sa douleur face aux attaques répétées contre les civils et les lieux de culte. Le pape a également interpellé la communauté internationale, l'exhortant à respecter les lois humanitaires, à protéger les civils et à mettre un terme aux punitions collectives, aux déplacements forcés et à l'usage indiscriminé de la force.
L'invité.
Chaque le 18 juillet, le monde célèbre la journée internationale Nelson Mandela, une occasion de rendre hommage à l'héritage de l'ancien président sud-africain et prix Nobel de la paix. Cette année, le thème retenu est le pouvoir de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités et entre nos mains à toutes et à tous. À Goma, l'association des volontaires du Congo, ASVOCO, a marqué cette journée par une conférence débat, riche en échanges et en réflexions. Pour en parler, nous recevons Mouné Batende Doufina Tabou, président de l'ASVOCO. Il est au micro de Chris Mukanda.
Monsieur Doufina Tabou, bonjour.
Et bonjour, monsieur le journaliste.
Ce 18 juillet, le monde commémore la journée internationale Nelson Mandela. Comment vous, au niveau de l'ASVOCO, avez observé la journée?
L'ASVOCO, c'est une association de l'unification mondiale. Donc les gens sont obligés de vivre ensemble. Avec toutes les races du monde, nous sommes obligés de vivre ensemble. Alors aujourd'hui, nous avons appelé les journalistes, puisque ce sont eux qui doivent relancer l'idée de Mandela. Nous avons festoyé ensemble, nous avons causé ensemble pour que les gens puissent suivre les idées de Nelson Mandela pour la bonne cohabitation avec les gens.
Donc, le message à cette occasion, c'est celui-là.
Oui, Mandela, il a fait 27 ans dans la prison puisqu'il voulait que les gens vivent ensemble et les Noirs et les Blancs vivent ensemble. Mais on voulait le faire taire quand il a quitté la prison. Bon, effectivement, il est devenu président de la République, mais il a pardonné. Il a dit, voilà, je pardonne tous mes bourreaux. Nous allons vivre ensemble et ça sera une seule voie pour sauver l'Afrique du Sud. Il a pardonné et il a accepté de vivre ensemble avec ses bourreaux. Voilà pourquoi nous devons suivre l'exemple de Nelson Mandela. Malgré que nous sommes dans une partie là où il y a la guerre, mais le pardon est nécessaire et l'acceptation est nécessaire pour vivre ensemble. C'est ça, une bonne voie, il faut adhérer à la vision de Nelson Mandela.
Alors, ça fait presque 12 ans depuis que ASVOCO célèbre ou commémore la journée internationale Nelson Mandela. Quel impact le message de l'organisation a eu particulièrement sur la population de la partie est de la République démocratique du Congo?
Nous parlons toujours de cela. La voie la plus facile, c'est de s'accepter, de dire voilà, on a fait des problèmes qui divisent les gens, mais pour Mandela, il avait compris que les Blancs, les Noirs sont obligés de vivre ensemble. Pour nous, c'est une leçon, en tout cas, que les gens, malgré nos différences, malgré ce que nous vivons aujourd'hui ici, il y a la guerre, mais la seule voie est de s'accepter. Nous sommes obligés toujours de vivre ensemble. Si vous suivez vraiment la voie de Nelson Mandela, nous sommes obligés de vivre ensemble. S'il y a la différence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, il y a la guerre. Acceptons-nous et il n'y aura plus la guerre. Nous allons vivre ensemble. C'est ça Nelson Mandela.
Ça fait presque 6 mois aujourd'hui, depuis que la ville de Goma traverse une situation quasi atypique. Que dire à cette population et à cette localité des environs comme message à cette occasion?
Toutes les guerres du monde, ça se termine avec la négociation. Voilà là où nous sommes, on est en train de négocier. Mais si on pouvait suivre la voie de Nelson Mandela, de s'accepter, de pardonner, on pouvait vivre très bien. Moi, je crois que Mandela, c'est la solution à toutes les autorités de l'Afrique d'hériter Nelson Mandela. Suivez l'exemple de Mandela pour avoir une paix. On n'aura jamais la paix avec l'exclusion, avec des rejets. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Même les blancs, même les noirs doivent s'accepter pour vivre ensemble. Il n'y a pas un Mutusi, un Mutu, un blanc. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Jusqu'à la fin du monde, là, on aura la paix durable.
Dufina Tabu, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous remercie.
Notre invité, Mouine Batende Dufina Tabu, président de l'ASVOCO, avec qui nous avons échangé autour du thème de cette journée internationale, Nelson Mandela, le pouvoir de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités et entre nos mains et à toutes et à tous. Il répondait aux questions de Chris Moukand. Ainsi s'achève notre journal sur Radio Capi, mis en onde par Pierre Diassinois, coordination par Jude Mister Bilonda, Gisèle Cajala. La présentation. Nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité à notre station. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Vous pouvez également consulter notre site web www.radiocapi.net pour des articles détaillés. Nous vous souhaitons une agréable soirée.